commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Te rendons grâce ce matin, toi qui es capable de transformer un désert en verger. N'est-il pas écrit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit? Quand il y avait les ténèbres, tu as dit une parole et les ténèbres ont été envahies par la lumière. Je prie que ce matin, toi le Dieu de l'impossible, tu te manifestes dans nos vies. Fruit de la prédication. Dans la vie de quelqu'un, il y a un avant et un après-audition de ce message. Tel est hier. Au nom de Jésus. Amen. On va lire ensemble dans Luc au chapitre 15. Partant du verset 11 au verset 24. Luc chapitre 15, du verset 11e jusqu'au verset 24. C'est notre quatrième séance sur les paraboles, mais ça sera notre troisième parabole. Luc 15, du 11e verset au 24e. Il dit encore, parce qu'il a déjà dit certaines choses devant. Un homme avait 10. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au sein du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il se rassasiait des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et il alla vers son père. Et j'aime suite. Comme il était encore loin, son père le vit et compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il s'est dévalué lui-même. Mes serviteurs, mettez la plus belle robe et l'ont revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Nous allons ce matin parler de la parabole du fils prodigue. Il est étonnant que depuis des années, cette parabole, on l'a toujours intitulée la parabole du fils prodigue, sûrement liée à la manière dont il a géré, pour ne pas dilapider, les biens de son père. Plusieurs disent on aurait pu normalement l'intituler la parabole du père et des deux fils. Il y en a même deux. Disent encore qu'on aurait pu l'intituler la parabole de deux fils perdus. Car il n'y a pas seulement celui qui était perdu en partant, mais il y a aussi un autre qui était perdu. N'empêche, nous gardons cet intitulé, la parabole du fils prodigue. Et s'il y a plusieurs choses qui frappent dans cette parabole et que nous pouvons déjà faire ressortir d'entrée, j'aimerais en mentionner six. La première, c'est que cette parabole ne se retrouve nulle. Si ce n'est dans l'évangile, on ne retrouve cette parabole que dans l'évangile de Luc comme certaines paraboles. Deuxièmement, cette parabole fait partie d'une série bâtie quasiment sur un même modèle. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce d'argent perdue ou du drachme, fait partie d'une série de trois paraboles bâties quasiment sur un même modèle. Et dans ces modèles, nous retrouvons ces axes, premièrement, ensemble, dont il avait sens. Et deuxièmement, il perd une partie de ce qu'il possède. Il ne perd pas tout, une partie. Une partie reste, une partie n'est plus devant sa personne, il ne peut pas. Troisièmement, cette perte ne les laisse pas insensibles. Il se met à tout faire pour récupérer la chose perdue. Et quatrièmement, nous retrouvons toujours Cette autre axe, la chose perdue est retrouvée. Et cinquièmement, il y a toujours réjouissance ou fête à la fin. Trois paraboles, mais comme j'ai dit, bâties sur un où nous retrouvons ces axes qui seraient différentes, mais nous retrouvons les fonds et les mêmes. Troisième chose que nous pouvons retenir déjà d'entrée de cette parabole, c'est que cette troisième parabole, contrairement aux deux premières, elle est plus captivante. Elle est pleine d'intensité. Si dans les deux autres paraboles, il y a aussi la tristesse de perdre un objet, mais aussi la joie de retrouver les choses, dans la troisième, il y a une spécificité. Ce n'est pas un animal qui est perdu, ce n'est pas une chose qui est perdue, c'est plutôt un homme. Mais bien plus encore, si la brebis, rien ne montre que la perte de la brebis est liée à un choix, c'est une perception. La brebis est en train de manger, et les conducteurs du troupeau ont dû partir. La pièce, est-ce qu'une pièce a une volonté? Mais par contre, dans la troisième, la volonté, un choix. Je veux faire ceci. Beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense dans cette troisième parabole. Quatrième chose qui nous frappe dans cette parabole d'entrée, c'est non seulement cette intensité qui est attachée à cette parabole, mais c'est la valeur de ce qui est perdu. Et nous voyons dans la première parabole, celle de la brebis perdue, à 100. On peut dire quelque chose perd 1%. En brebis, une seule est perdue. Dans la deuxième parabole, nous retrouvons 10%. La proportion semble augmenter. Il avait 10 et il perd une pièce. 1% et puis 10%. Mais puis finalement, dans la troisième parabole, c'est du 50%. Il avait 2 et parmi les 2, une est partie. Et l'autre reste. Mais ce que j'aime à chaque fois, celui qui a perdu met son cœur pour retrouver. Pour 1%, prêt à investir. Pour 10%, prêt encore à s'investir. Et s'il est prêt à s'investir pour 1% perdu, pour 10%, à combien plus forte raison pour 50%? La cinquième, c'est que cette parabole a deux sortes de leçons. Il y a une leçon principale qui est doctrinale. Dans cette parabole, Christ veut nous montrer le cœur de Dieu, le cœur du Père, que lui connaît, combien il aime sa création, combien il éprouve la créer homme et femme, un attachement particulier, et combien il connaît leur valeur et leur prix. Mais puis il y a deuxième leçon que l'on retrouve dans un ensemble de choses. Dieu mettra sûrement peur de rester sur cette parabole un ou deux dimanches. Parce qu'à part la leçon principale qui est doctrinale, il y a bien d'autres leçons pratiques où l'on retrouve aussi un tout plein de choses que nous pouvons retirer. Premièrement, le pouvoir de nos choix, les poids qui ont que nous levons. J'ai toujours été assez déçu de voir des gens prendre d'aussi grandes décisions de la vie, faire les choix les plus importants de la vie, légèreté. Critères dérisoires. Certains vivent comme si la vie, on la vit au brouillon, et qu'on va la vivre au propre après. Qui font des choix n'importe comment, sans profondeur, sans réflexion. J'ai vu des jeunes gens s'engager par rapport au mariage, et leur seul critère, c'est les. Je vous ai parlé de ce jeune homme-là qui voyait une jeune fille parler, dit, mais oh, Bassia, oh, Bassia. Makoula, Mako sont des critères. Tu auras les Mako sur la maison. Elle te répond mal. Elle ne sait pas préparer les Mako, cela tu ne verras plus ça. On sera étonné. On te voit sortir avec une femme comme si elle joue au rugby. Les gens se demandent, mais à qui n'a moi, c'est l'amour. À qui n'a joué ça rugby, Ndengeni? Des jeunes filles qui sont épatées par un jeune homme. J'ai entendu une jeune fille pasteur. Il peut bien parler, mais bien cogner aussi. Choisissons bien. L'une des phrases les plus tristes à prononcer dans la vie, c'est « Si j'avais su ». Je vous ai parlé ici de cette femme qui un jour rentre dans mon bureau du pasteur. Là, mon balilanga petit frère propre, il y a Satan. Donc Satan a prié. Je dis, maman, tu l'as su depuis quand? Pendant le fiancé, tu ne savais pas. Alors ton fiancé. Vérifie s'il n'y a pas les diables derrière. Faut le savoir maintenant. Parce que si tu le sais, après, ça sera terrible. Là, peut-être j'annonce déjà. Mais entre temps, il fait d'autres. J'arrive jamais à savoir. Mais il fait d'autres bannes. Je ne sais pas comment il fait les autres bannes. Faites les choix bien. Sinon, vous commencerez à rester dans cette maison. Vous commencez à regarder un zambé. Le pouvoir ardent. Mais l'on peut aussi retrouver. Laissons la gestion de la liberté. Ça, nous allons en parler. Nous retrouvons comme laissons la valeur de l'honnêteté envers soi-même. Combien de gens n'arrivent pas à s'arrêter à se regarder en face. L'homme a été un moment dit en lui-même. Il s'est dit, donne-nous des gens à qui l'on ne dit pas qui s'est péché contre le ciel. Et j'ai péché contre mon père. Combien de gens ne sont pas prêts à assumer? Combien de gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes? Les fautifs, c'est toujours l'autre. Un peu comme dans les jardins d'Éden. Adam, Kamounouko, innocent, oui. Écoutez comment il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as. Et pourtant, avant, il était poète. Os de mes os, chair de ma chair. Dieu dit, bon, puisqu'on a cité la femme, je vais chez la femme. Femme, Ndayangani. Les serpents. Pauvre serpent, il n'avait personne à qui donner la passe. Il assume. J'aime quand Nathan confronte David. Il dit, tu es cet homme-là, tu as péché. David dit, oui, j'ai. L'honnêteté. Quatrièmement, nous voyons comme laissons les prix à payer pour la restauration. Voyons combien ces jeunes hommes qui tombent dans la déchéance, mais plus tard ils retrouvent un état plaisant. Simplement parce qu'il était prêt à payer. Il a dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et j'ai péché contre toi. Là, c'était l'intention. Je me dis, ce ne sauve jamais. Les intentions qui ne sont jamais suivies des actes ne sauvent jamais. Après cela, la Bible dit, il s'éleva et il partit. Il n'a pas retrouvé une nouvelle robe. Il n'a pas retrouvé la bague aux mains. Il n'a pas retrouvé des sandales à distance. Il a retrouvé ces choses en étant prêt à payer. Il les prit. Il ne savait même pas comment son père allait l'accueillir. Mais il s'est dit, moi je ferai ma part. Il y a un prix à payer pour retrouver certaines choses perdues. Mais cinquième leçon, Dieu voulant, en parlerons. Nous verrons aussi la cécité spirituelle du fils aîné. Qui est dans une maison qui a droit à certains privilèges et qui ne les sait pas. Qui se comporte comme un esclave alors qu'il a droit à toutes ces choses. Donc je disais, cette parabole contient une leçon doctrinale et cœur de Dieu, mais puis toute une série de leçons secondaires, mais que nous pouvons aussi avec la grâce de Dieu étudier. Mais sixième chose, non seulement cette parabole, mais aussi les deux précédentes qui sont collées à elle. Il est important de ne pas ignorer les deux premiers versets de Luc 15, 1 à 2. Ça dit, ce qui a donné ces dialogues, c'est à tout ce que Christ a pu dire après. Luc chapitre 15, verset 1 à 2 dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est ayant vu cela, c'est dit non, j'aimerais changer leur façon de réfléchir. J'aimerais leur faire comprendre certaines choses. Il a vu leur dépit, il a vu leur dédain. C'était des gens qui estimaient qu'ils sont trop propres pour être en comptable. Alors il leur dit cette parabole. Il commence d'abord par de la parabole de la brebis perdue. Une autre parabole, c'est de la pièce perdue. Et puis enfin, la parabole dont il est question ce matin. Tous les publicains, et les gens de mauvaise vie. Le premier verset nous montre qu'il y a deux camps. Il y a d'un côté les publicains et les gens de mauvaise vie. D'autres traductions disent des prostituées. D'autres traductions disent des prostituées et des ivrognes. Ce sont ces gens qui se sont approchés de Jésus. Les publicains. Qui étaient-ils, les publicains? Les publicains étaient des juifs, nos servants romains. Le principal, les impôts. De faire payer tout ce qu'il y avait comme impôts directs ou indirects. Et en général, ils n'étaient pas aimés des juifs et surtout des juifs religieux. Pour plusieurs raisons, nous vont mentionner certaines. Premièrement, c'était des tricheurs. Ils étaient considérés comme étant des tricheurs. Des gens qui faisaient des extorsions. Des gens qui faisaient toutes sortes de combines pour avoir. Et les gens savaient cela. C'est pourquoi on ne les aimait pas. La fraude, c'était leur défi. Deuxièmement, ils étaient considérés comme des gens collabos, si je m'attachais à la Seconde Guerre mondiale. Trop proches des Romains, trop proches des sans-dieux. Des gens ne voulaient pas entendre parler des Juifs. Et les Juifs les plus pratiquants, ils considéraient que celui qui s'attache à ces impurs, si je m'attache à lui aussi, je deviens impur comme lui. Troisièmement, ils étaient bien parce qu'ils ne respectaient pas les sabbats. Car les Romains et les recettes faisaient travailler et même les collecteurs des impôts, même les dix. Même les jours prévus comme étant les jours mis à part. Les Juifs pratiquants, orthodoxes, ils supportaient pas cela. Parce qu'eux-mêmes, dimanche, les sabbats, quand tu faisais tomber une chose, tu ne pouvais pas ramasser. Sinon, c'était un travail. Alors, ils étaient encore choqués de voir des gens qui se réclamaient des Juifs, mais qui allaient au travail. Quatrièmement, les rabbins juifs, les classes prostituées, en termes de souillure et de saleté. Dieu, s'il y avait des écrits, on dit, les plus sales, c'est d'abord les publicains, et puis les prostituées. Matthieu chapitre 21, verset 31, Christ enseignant même au travers d'une parabole, et pour illustrer que même les gens de mauvaise vie pouvaient passer devant certaines personnes par rapport au salut, il dira, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Pour montrer que c'était des gens auxquels on n'attachait pas trop les saluts. Quand on les regardait, on disait, eux, le salut n'est pas très attaché à eux. D'un côté, les publicains et les gens de mauvaise vie. De prostituées. J'essaie d'imaginer des femmes avec liage, des femmes avec des habits compliqués. Et ils étaient avec Christ et Christ il était à l'aise. J'aime mon Jésus. Il estimait que l'hôpital, un hôpital, devait accueillir les gens malades. Alors laissez-moi, je veux comment Dieu a changé les gens dans l'église. Il y a des gens qui sont des fois trop propres pour voir certaines personnes. Il entre de louer. C'est là, sa jupe devait grandir. L'endroit où la jupe grandit, c'est ici. C'est là avec son maquillage. C'est lui là avec son chignon. C'est lui là avec qui a comme boucle d'oreille. Laissez-le. Christ a dit un jour, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu plutôt pour les malades. J'ai vu Dieu faire toutes sortes de choses dans l'église. J'ai un brave frère qui a servi avec moi les seigneurs plusieurs fois et dit Roland, Dieu peut utiliser toutes sortes de moyens pour sauver. Il dit un jour, c'était en 88 à l'époque, visiter quelqu'un, puis j'ai vu une jeune fille qui descendait d'un taxi. J'ai commencé à avancer pour lui faire la cour. Et en lui faisant la cour, elle m'a dit, non, moi je vais à l'église. Il a dit, bon. Parce que je veux la voir, je veux assister au culte. Vous ne savez pas pour quelles raisons les gens sont assis. Vous ne savez pas qui est venu pourquoi. Il disait même, il dit, ce qui m'intéresse, plus le prédicat kata, katanan, gazana ma solo. Mais la jeune fille dit, j'étais étonné au moment de l'appel, le vieux pasteur Vernon a prêché un merveilleux message. Et il a vu quelqu'un s'élever, il pleurait. Dieu peut faire tout avec n'importe. Il dit à la fin, celui qui devait venir pour autre chose est venu dire, non, j'ai changé d'avis. Et la personne est restée dans l'église. Plusieurs années plus tard, je l'ai connu, on s'est rapproché, elle a servi Dieu avec moi. Laissez-le venir. La parole de Dieu est tellement puissante. Elle est capable d'accomplir toutes sortes de choses. Et Christ laissait ces gens de personnes venir. Mais d'un côté, il y a le publicain et les gens de mauvaise vie. Mais de l'autre côté, il y avait les pharisiens et les scribes. Deux groupes de judaïsme. Les scribes, c'était les gens qui s'occupaient de l'écriture. Avec comme écrit sacré. C'était des gens pointueux, méticuleux. Non seulement ils enseignaient les écritures, mais ils copiaient. Et les scribes tenaient tellement à respecter Dieu que chaque fois qu'ils étaient en train de transcrire les écritures, quand il arrivait là où il y avait les noms de Dieu, ils changeaient les stylos. Ils écrivaient les noms de Dieu et puis ils prenaient un autre stylo. Il faut respecter Dieu. Pointueux, méticuleux. Les gens qui honoraient Dieu. Mais de l'autre côté, il y avait les pharisiens. Les pharisiens, ils se réclamaient être les défenseurs de la foi en Jéhovah. Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu décadence au fil des années. Et ils ont voulu comme défendre cela. Ils disaient non, 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 non. Et eux aussi, ils étaient pointueux. Christ dira même plus que juste des scribes. Il montre, il dit, il donne même la dîme de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Un bon pharisien, quand tu le rencontrais, il arrive, il sert des cacahuètes, il y a 50 grains. Il dit, je ne peux pas tout manger, Nzambe. Chez toi, à la maison, il compte. Il m'a donné 50. 5 pour Dieu. Waouh! Tu lui sers à manger, il y a des grains de riz. Il met de côté, il avait combien? 1200. 120 pour Dieu. Parce que dans leur vie, c'est Dieu d'abord et toute autre chose après. Des défenseurs de la doctrine. Et ce sont ces deux camps qui se retrouvent et ils pensaient que Christ allait choisir leur camp. Mais bizarrement, voir Christ à côté des personnes estimées sales. Ils sont choqués. Ils n'en reviennent pas. Ils disent, cet homme accueille des gens de mauvaise venge avec eux. Et c'est à ce moment-là que Christ, sciemment, aligne les trois paraboles avec comme clou celle du Fils prodigue pour montrer de Dieu. Les cœurs du Père que lui connaît, que ceux qui prétendent connaître ne connaissent. Ceux qui prétendent prêcher en son nom ne connaissent pas. Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, Christ dira, personne ne connaît les pères si ce n'est les fils. Dans Jean chapitre 6, au verset 46, Christ ajoutera, n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. C'est lui qui a vu le Père. Dans Jean chapitre 7, verset 28 à 29, enseignant au temple, il dira aux pharisiens, c'est lui qui m'a envoyé. Verset 29, il dira, moi, je le connais. Je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je sais comment il fonctionne. Je sais ce qu'il éprouve pour ces gens qui travaillaient en son nom. Vous estimez que ces gens, non, on ne doit pas les accueillir. Moi, je sais comment lui fonctionne. Je connais. Dans Jean 10, au verset 15, il ira plus loin en disant, comme le Père me connaît, moi aussi je connais le Père. Et pour leur montrer, il fait une chose différente par rapport aux deux paraboles précédentes. Si dans la première et dans la deuxième parabole, comme je l'avais dit, la perte n'engage pas forcément la volonté, brebis perdu, dans la le fils est perdu volontairement. Et de quelle manière? La Bible dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, moi, la part qui doit me revenir. J'aime la suite. Et le père leur partagea son bien. Je suis frappé non seulement par la demande du fils, mais bien plus encore par la réaction du père. Il y a d'un côté la révolte, il y a d'un côté quelqu'un qui désire la liberté, mais lui, connaissant le cœur du père, il dit voilà comment mon père est. Même quand les gens se trompent, il respecte leur choix. Il a fait un mauvais choix, il a levé une mauvaise option. Mais le Père ne l'a pas arrêté. Il a respecté. J'ai dit, Dieu respectera toujours notre liberté. Il ne fera jamais des choses à notre place. Pour les faire le mal, faites-les. J'ai en mémoire, j'appelle ça toujours les 6 mois de récréation de ma marche chrétienne. Je me suis converti le 5 novembre 85 à 9h. J'ai jamais oublié ça. Et je marchais dans la crainte de Dieu. jusqu'à ce que j'arrive au mois de juillet 86. Ouf. Je suis au clinique Ngaliema. Première intention était de prêcher. Quand je suis arrivé pour prêcher, ma mâchoire est tombée en panne. Je n'ai pas pu prêcher. Et nous avons commencé à appeler plusieurs autres choses sauf de l'évangile. Je faisais la garde d'un de mes oncles qui était malade et elle était malade. Et chaque fois que j'arrivais non pas seulement pour garder mon oncle malade, mais je venais surtout pour la voisine. Et les jours, quand j'arrivais, j'ai dit le nom, aucun déconnade. Et puis après 30 minutes, j'étais surpris, j'étais déjà dedans. On passait des heures et des heures, on parlait de tout sauf de l'évangile. Et plus j'avais, moins je parlais de l'évangile, plus ça devenait difficile d'en parler. Je me suis rendu compte qu'à certains endroits, il est bon de présenter l'image. Ça vous protège après. J'arrivais plus à en parler. Cette jeune fille, je ne lui ai jamais vraiment fait la cour. Je ne me souviens pas. On est devenus copains, copines. J'arrive pas à l'expliquer. Mais je venais toujours à l'église, mais le Seigneur. Je me souviens un dimanche. Je viens au culte. J'avais rendez-vous avec elle à 11h. Un message. On lance même l'appel, je monte en pleurant. L'église, écoutez la prière fait. N'a qu'une gonade ba taxi et yate. Le péché vous fait faire des prières bizarres. Mais reste à la maison. Je viens à la reine, ça, mais sur l'église, madame Namonana était taxi et yate. Il y a kitambo, kitambo. J'étais dedans. Je vivais deux choses. Je sentais que c'était mal d'être avec elle. Mais quand j'étais avec elle, j'étais comme si j'étais anesthésié. J'oubliais tout. L'évangile. Mais là aussi, je me suis rendu compte, celui qui a véritablement goûté Dieu, le péché n'a pas la même saveur. À la fin, il y a toujours quelque chose. Quand j'étais avec elle, j'oubliais tout. On parlait, on rigolait. Mais dès que j'ai quitté, je pleurais. Combien de fois n'ai-je pas dit Zambé? Aucun délit sous soutien. Je vais vous dire une autre chose. Ne faites pas part de cela aux absents. Que ça reste entre nous. Vous permettez, n'est-ce pas? C'était la période où les Kassav étaient venus à Kinshasa. Les Kassav. Mais chez moi, à la maison, surtout mon jeune frère qui venait après moi, je l'avais amené à Christ. Il savait que j'étais enfant de Dieu. Et je suis allé acheter des billets de Kassav. Bible. Donc on était en train de méditer, lui et moi, il a regardé, il dit, Yahoo, la babille, la banane. Et puis il m'a dit, mais sois mon tuté, toi, passe le rond, passe le rond pour la ligne. Une manière de dire, t'es comme la billet. Ah, le péché, c'est terrible. Terrible, le péché. Je prie que vous ne connaissiez jamais cela. Les jours où je suis allé dire à cette jeune femme, moi c'est fini. Elle me pose la question. Parce que je suis. J'ai dit non, je suis. Même quand j'étais avec toi là, j'étais. Ce que j'ai dû utiliser, la conversion frère que vous avez prêché dimanche pas ici. Parce que je me suis converti, je commençais à lui apporter Christ. Et moi qui avais apporté Christ, je suis allé en récréation. Je me souviens un jour, il est rentré du collège, on devait manger à midi, je l'avais toujours enseigné, Rémi, on doit prier. Et puis on a mis du bon fondé, ma main partait d'hier, on n'a pas prié. Des choses que j'avais enseignées, je ne savais plus les appliquer. Mais j'ai dit, Dieu respecte nos choix. Même quand ils sont mauvais. Je prie que ce matin, quelqu'un n'aille pas plus loin, Dieu ne veut qu'il aille. Car on n'en revient pas toujours intact. Le fils prodigue a eu la grâce. Il s'est perdu, mais Dieu lui a donné la grâce de se retrouver. Combien sont perdus ne reviennent jamais. Il y a certaines personnes, le diable sait qu'il ne vous aura pas 1000 fois, pas 10 fois. Il sait ça. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'enclos de Dieu, restez-y. Alléluia. Donc je disais, si dans la première et la deuxième, la volonté n'est pas engagée, troisième parabole, quelqu'un lève l'option volontairement d'aller. Et il y a trois éléments que je suis mettre des ingrédients qui ont répliqué la situation. Premièrement, le jeune fils qui avait droit au un tiers de l'héritage. Il demande sa part d'héritage. Et cela du vivant de son père. Qu'est-ce que cela veut dire? Demander l'héritage du vivant du Père, cela signifie deux choses. Premièrement, on souhaite sa mort. Deuxièmement, cela est un signe de mépris. C'est-à-dire, pour moi, je te considère mort. Tu n'existes plus à mes yeux. Donne-moi ma part. C'est simplement de la rébellion. Et de la rébellion pure et simple. Deuxièmement, par sa demande, le fils lance un message à son père. Il dit, je suis à l'étroit ici. J'aspire à la liberté. Je veux faire ce que je veux. Non, tu m'étouffes. Non, on ne respire plus dans cette maison. Il avait soif de liberté. Son père connaissait les pièges qu'il pouvait avoir derrière la liberté. Mais ce que j'ai dit, et ça c'est la troisième des choses, le père laisse faire. J'aimerais m'arrêter un moment avant de continuer pour parler de la liberté. Merveilleuse chose. J'ai pu voir plusieurs définitions du terme liberté. Possibilité d'agir à sa guise, en dehors de toute dépendance ou de tout contrôle ou de toute interaction. Qu'est-ce que les gens aiment? La liberté. Je vais faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je vois surtout en Europe combien les jeunes gens rêvent d'avoir 18 ans. Je veux partir chez moi. On ne va plus me dire non, il faut rentrer avant telle heure ou telle heure. Liberté. La liberté, je vis une autre définition, n'est pas être soumis à un contrôle, à une réglementation ou à des restrictions. Oh, les jeunes gens, combien ils aiment la liberté. J'en ai assez que l'on me dise qu'il faut rentrer avant 21h. J'en ai assez qu'on me dise qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Si la liberté est une bonne chose, est-ce que les gens savent gérer la liberté? J'ai vu dans mes premières années à l'université de Kinshasa combien de les jeunes ne savaient pas gérer la liberté. Je revois encore cette jeune fille qui a passé par moi, avec moi, tous les cursus à l'école primaire, à l'école secondaire, CO à l'époque, cycle d'orientation, et puis les 4 années des humanités. Brillante, intègre, honnête, pure comme tout. Je la vois la première année, on arrive à l'université de Kinshasa, elle habite le home. Moi, j'étais au home 10. 2 mois après, j'étais étonné. De lundi à samedi, elle passait toutes les nuits dans la chambre en face de chez nous. Les parents hommes savaient qu'elle était célibataire. Mais elle était mariée. Mariée de lundi à samedi. Et samedi, l'après-midi, une jeune fille innocente rentre à la maison. Papa, maman! Qu'est-ce que vous faites de la liberté? Qu'est-ce que vous faites de la liberté? En fait, la liberté montre aussi notre vrai caractère. Ce que nous sommes réellement. J'ai visité des jeunes gens en Europe ou aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que même certains de nos enfants sont certes convertis, mais bénéficient de ce qu'on appelle la protection sociale. Leur force, c'est parce que papa et maman sont là. Est-ce que vous-même, vous serez fort? Habiter seul un appartement. Un garçon venir. Habiter seul un appartement et rien faire. J'étais dans une ville, dans un pays d'Europe, et un poste téléviseur, il y a 66 chaînes de télévision. Et chaque fois, 22h à 3h, trafic. C'est facile de ne pas regarder, papa et maman sont là. Ou quand vous pouvez regarder une chose, il y a les pas de papa et maman. Hero News. Ah! Les Libans. Que faites seul? Aucun contrôle, aucune restriction. Qu'est-ce que vous faites de la liberté? Seigneur, rends-nous capables de gérer la liberté. J'ai vu des gens, comme je l'ai dit, la protection sociale les a aidés, mais ils ont été confrontés. Ils n'ont pas su gérer. Mais j'aime aussi, je vois dans la parole de Dieu, Joseph. Loin de sa contrée, loin de sa patrie, mais il a su faire face à tout ce qu'il y avait comme attaque. Ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il y a deux constances. Il y a constance dans la sollicitation. La Bible dit que la femme de Potiphar, mais il y a constance dans la fermeté. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je? Mon Dieu. Mais j'aime aussi Daniel. Loin de sa contrée, loin de Jérusalem, loin de son pays, il n'y a ni lévite, ni sacrificateur, il est seul. Ma Bible a moi dit dans Daniel 1, oui, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. La liberté. ce que je... La liberté, ce jeune homme dit, j'en ai assez. Je veux partir d'ici. La liberté, elle est bonne. Mais la liberté, c'est qu'est-ce qu'on en fait? En 68, il y a des jeunes qui se sont levés de genre. On en a assez des restrictions. Et ils ont lancé les célèbres. Il est interdit d'interdire. Qui a amené toutes sortes de choses. Ils sont retrouvés dans une contrée aux États-Unis. Ils ont dit, faisons l'amour et non la guerre. Des jeunes ne sortent pas. Ils ont le terme à avoir des orgies. Et de là est partie la décadence morale qui a entraîné les sida, qui a entraîné aujourd'hui tout ce que nous avons. La liberté, qu'est-ce que nous en faisons? Et il a dit à son père, j'aime dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset, c'est permis, mais tout n'est pas. Tout m'est permis. On n'édifie pas. Et il ajoute encore, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien ou quoi que ce soit. Combien une apparente liberté. Que des gens qui sont devenus sans le vouloir. Le prix arrête, c'est par curiosité. On aimerait savoir c'est comment. Mais la curiosité à l'esclavage. J'ai parlé avec un fumeur, il dit, papa, si on a la mouille dans 5 heures, on a mis là. Et je finis de manger. Il semble que c'est lié. Esclavage. Au verset 1er et puis au verset 13, l'apôtre Paul parlant pour la liberté que vous a affranchi. Mais il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur les joues de la servitude. Au verset 13, il dit, frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre sous l'esclavage d'un maître appelé cher. Regardez comment cet homme gère sa liberté. Le verset 13 nous donne des informations. Parti pour un pays éloigné. C'est-à-dire, il désirait s'éloigner du centre d'autorité. Il désirait s'éloigner de celui qui lui donnait des injonctions. Il ne voulait proximité. Attaché. Il faisait des choses à faire. Il a voulu se donner toutes les garanties pour ne pouvoir des injonctions. Il s'éloigne. Deuxièmement, l'abbé dit, il ne dissipe pas son bien. Il a mal géré. Il a mal utilisé. Mauvaise gestion. Pas de... Simplement parce qu'il doit lui dire, ça fait, ça ne fait pas. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux. Donc, sans contrôle, il ne sait rien faire. Si lui, c'est bon, parle de dissiper, c'est-à-dire dépenser inutilement. De la mauvaise... Mais non seulement il dissipe pas son bien, la Bible dit, il dissipe pas son bien dans la débauche. C'est comme s'il rêvait de ça. C'est comme s'il voulait faire certaines choses, mais il disait, le fait de rester éloigné de Dieu n'amène qu'à la déchéance. Regardez les sociétés, l'évolution des choses, plus il s'éloigne de Dieu, et plus moralement, quand vous entendez les histoires attachées à la pédophilie, ça vous donne la nausée. Vous entendrez parler des gens qui ont de grands diplômes, élevés scientifiquement, élevés dans toutes sortes de domaines, mais des nains sur le plan moral. Des nains et même des plus que nains. Loin de Dieu, l'homme est un exilé moral. Loin de Dieu, l'homme est un déraciné. Dans Romains chapitre 1, verset 22, la Bible parlant des hommes dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais autre chose aussi, non seulement qu'il a dissipé son bien dans la débauche, mais la Bible montre qu'il a connu la déchéance. Les versets 14 jusqu'à 16 nous montrent combien il est allé plus bas. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ses pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le fils qui voulait se réaliser lui-même, loin de son père, il se rend compte qu'il a tout perdu. Lui qui avait un père, désormais il a un maître qui domine sur lui. Lui qui avait tout auprès de son père et qui trouvait cela insuffisant, quand il s'éloigne de son père, il perd tout. Comment je gère la liberté? La vie des péchés est toujours liée au principe que Dieu a donné à l'homme au sortir de l'arche. Lorsqu'il dit, dans Genèse chapitre 8 au verset 22, il dit, parmi les choses qui ne passeront point, les semailles et la moisson. Galates chapitre 6 au verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dans Nombre, chapitre 32, au verset 23, Jéhovah parlant par la bouche de son serviteur, il dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Mais il dit, sachez que votre péché vous atteindra. Ce qui veut dire, sachez que vous récolterez les fruits qui sont cachés dans les actes que vous êtes en train de poser. Osée chapitre 8, au verset 7 dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Il a dilapidé ce que son père a gagné par beaucoup de sacrifices et de privations, et pour lesquels il avait un plan et un projet. Et il est tellement conscient de la gravité de son acte qu'au moment où il prend conscience de sa bêtise, il se juge lui-même. Il établit un verdict au verset 19. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il essaie. Vu l'acte que je posais, non. Il ne peut plus m'accepter. Mais j'aime particulièrement le verset 20 qui est le centre de ce message. La Bible dit, il s'éleva et il alla vers son père. Mais j'aime la suite. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, les contextes montrent que son père sortait chaque fois. Il regardait à l'horizon, est-ce qu'il va revenir? Et ça, Christ voulait mettre ça dans le cœur des pharisiens et des scribes. Il dit, le père s'attend toujours à ce que les rebelles reviennent. Il espère toujours que le fautif va revenir. Lisez dans Genèse au chapitre 3, au verset 8, dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Dieu descendait chaque soir. C'est lui qui est venu vers l'homme, Adam, où es-tu? C'est lui qui a tendu la main par rapport à la perte. Et je prie, quelles que soient les mauvaises choses que vous avez pu faire, il y a ce matin ici, c'est lui qui a récupéré ses fils et qui lui a redonné une seconde chance. Il regardait, et comme il était au loin, il a voulu lui donner quelques signaux. Et j'aime ça. Le père espérait, il attendait cet instant. Et malgré le temps, et malgré les déformations que le péché a donné à son fils, la Bible dit, lorsqu'il le vit de loin, je peux m'imaginer, il ne s'était plus coiffé depuis longtemps. Il ne s'était plus rasé. Il était en train de manger avec les cochons. Il doit avoir maigri. Il doit avoir perdu du poids. Mais le père aime tellement son fils, malgré les déformations du péché, il se dit, ça c'est lui. Il est déformé, mais ça c'est lui. Il connaît sa créature. Il connaît. Même quand le péché peut être déformé, il se dit, je sais les choses que j'ai placées en lui. Mais il connaissait aussi la culpabilité qu'il y avait dans le cœur du fils. Il dit, si je reste silencieux, si je reste là sans bouger, il va se demander, est-ce qu'il veut de moi ou pas? Ma Bible m'a dit, il courut. Il a voulu lui donner un signe pour lui montrer que non, je n'étais pas totalement rejeté. Il se jeta à son cou et il le baisa. Et je suis frappé par la suite. Le fils avait déjà préparé sa confession. Il avait dit alors qu'il était en train de parler. Mon père, je ne suis plus digne. Les contextes montrent que le père ne l'écoutait même pas. Alors que le fils parlait, lui donnait des injonctions au serviteur. Amenez la plus belle robe. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens ce matin à Dieu. Reviens à lui tel que tu es. Certaines fois, nous pensons que nous devons nous rendre d'abord meilleurs, puis venir à Dieu. Il nous demande simplement de venir à lui tel que nous sommes. Et lui va nous rendre tel qu'il veut que nous devenions. Je prie que nous puissions baisser nos têtes dans la prière un petit moment. J'aimerais rapidement lancer ces trois appels. Je les sens dans mon cœur, je ne peux quitter ces lieux sans lancer ces appels. Et quand j'aurai lancé ces appels, après que l'on ait prié, quelqu'un est appelé à voir les conseillers. Parle avec eux, échange avec eux, demande leurs conseils. Et pourquoi pas demande-leur de prier pour toi. Il y a ce matin ici, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui est en train de mal gérer sa liberté. Il voit de plus en plus sa liberté se transformer en esclavage. Il le sait. Tu fais certaines choses que tu n'aurais pas voulu faire. Tu avais commencé un peu comme un jeu, mais tu n'arrives plus à sortir. Il y a ce matin ici une jeune fille qui sort avec quelqu'un de loin âgé. Au départ, tu disais que simplement c'est pour répondre à un besoin matériel et financier. Tu te prends même en dégoût par rapport à certaines choses que l'on t'oblige à faire. Au plus profond de toi, tu dis, si tout le monde me connaissait tel que je me connais, j'en aurais honte et je me cacherais. Plus d'une fois, tu as dit, je coupe Je ne veux plus retourner, pourtant tu y retournes encore. Il y a ce matin ici un esclave de la pornographie. Il y a ce matin ici quelqu'un qui s'est dit, c'est pas ça ma nature, c'est pas ça ma vie. Je voulais juste voir ces choses par curiosité. Mais la curiosité a amené l'esclavage. Il y a ce matin ici un esclave qui par curiosité a voulu expérimenter certaines choses. Il y a ce matin ici une jeune fille qui ne pensait jamais qu'elle était cette jeune fille, qu'elle en serait arrivée au nombre d'avortements qu'elle a eu à faire. Quand elle se regarde elle-même devant la glace, elle a tendance à voir un monstre très éloigné de l'image pure qui était la sienne autrefois. Dieu me dit de te dire ce matin, tu peux comme le fils perdu retrouver cette image, la meilleure d'autrefois. Ah, mais pour que cela se passe, il est bon, comme ce jeune homme, que tu prennes conscience. Je suis esclave. Je suis tombé très bas. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, il s'est regardé, il s'est comparé avec l'image qu'il avait, ou ce qui était sa nature quand il était dans la maison du Père. Il a dit, ça, c'est pas moi. Ce matin, quelqu'un peut retrouver la liberté. Deuxièmement, il y a ce matin, ce lieu, quelqu'un qui était dans la maison du Père et qui s'en est éloigné. Il y a un ex-chrétien zélé. Il y a un ex-enfant de Dieu. Il y a un ex-serviteur de Dieu. Il y a ce matin ici quelqu'un qui a servi Dieu avec zèle. Même quand il me voit, quand il m'entend prêcher, il dit, j'aurais pu atteindre ce niveau-là. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, mais on a commencé avec eux. Ta marche s'est arrêtée. Mais elle peut revenir. Comme un train qui a déraillé, on peut remettre les rails et ta course peut continuer. Dieu m'a dit qu'il peut faire de cette journée les premiers jours de tous les restes de ta vie. Il y a ce matin quelqu'un qui doit reprendre la course. Il y a ce matin quelqu'un qui doit revenir non seulement à Dieu, mais revenir à la vie qu'il sait être sa vie. La vie que tu mènes actuellement, tu sais, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Mais troisièmement, il y a quelqu'un ce matin qui doit rebâtir certains ponts. Ses fils a su qu'il a fait mal. Et la Bible dit, il s'est dit, j'irai vers mon père. Et je lui dirai. Je lui dirai. Je lui dirai. À combien de fois le seul mot pardon peut faire que toute tension s'arrête. Mais il y a aussi quelqu'un ce matin à qui l'on a fait du tort, comme ses pères, qui doit faire table rase et accepter les pardons. Celui qui va revenir, quand il reviendra, il ne va pas te rembourser ce que tu lui avais donné. Du reste, il a tout perdu là où il était. Tu as le choix soit de lui dire, ramène-moi tout ce que je t'avais donné, ce que j'ai gagné à la sueur de mon front et que toi tu as dilapidé, ou lui dire, viens, ensemble on va rebâtir notre fortune. Ce que tu as perdu, c'est important, mais le plus important, c'est que je t'ai retrouvé toi. Je prie qu'alors que les cantiques seront en train de jouer, quelqu'un qui veut répondre à cet appel, l'un ou l'autre, avance. Oublie qui est venu avec toi. Oublie qui est à tes côtés. Oublie ami. Oublie et viens. Seigneur, je suis esclave. Je crois à la liberté, mais cette liberté m'a amené à l'esclavage. Plus d'une fois, je dis, je ne veux plus faire cela, mais je n'arrive pas. Oh, salam. Yangonde, Najali. Ce matin, tu peux revenir à la maison. Il te demande de venir à lui tel que tu es. Et lui te rendra tel qu'il veut que tu sois. Il y a un ex-serviteur de Dieu. Mais Dieu me dit, il fera de toi un futur serviteur de Dieu. Les chutes que tu as connues, les gens ne voient pas. Ton égarement, les gens ignorent, mais toi tu connais. Tu peux retrouver l'image qui était la tienne dans la maison, de ton père. Oh, yes. Oh,
Ana et Tumba.
Ana et Tumba. Oyo Zambi. Na ko kite kondou.
Je ne peux pas par moi-même, c'est pourquoi je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Chantons-les encore, Ana et Tumba.
Chantons
encore une dernière fois, Ana et Tumba.
Ana et Tumba. Oh, Zambi, la coquille
lancer un dernier appel, je le sens fort dans mon cœur. Dieu veut faire de cette matinée un arrêt, mais aussi un point de départ. Il y a plusieurs esclaves de la pornographie, par internet, par toutes sortes de choses. Et cela vous amène à toutes sortes de choses. Et dans la vie de quelqu'un, c'est comme un cercle vicieux. Quand tu as regardé ces choses, ça t'amène à des comportements que tu ne veux pas. Il y a quelqu'un ce matin ici dans ce domaine, tu as des victoires cycliques. Un mois et demi, deux mois, et puis tu retombes encore. De telle sorte que même quelquefois quand tu confesses, les diables se moquent de toi. Il dit, je sais, tu retourneras encore. Mais ce matin, tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je sais qu'avec toi, il est possible de prendre un nouveau départ. Il y a même un homme de Dieu. Il y a même un serviteur de Dieu actif, un homme de Dieu respecté. Il y a quelqu'un qui sert Dieu. Je te prie, ne quitte pas cet endroit ce jour. Sans voir l'un des conseillers, sans voir un pasteur, et parle avec lui. Chantez encore Mabenaboyi. Mabenaboyi. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis! Misérable que je suis, qui me délivrera? Chantons-le encore, ma belle aboye. Ma belle aboye.
Parler à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Ce matin, quelqu'un doit revenir à Dieu. Ce matin, quelqu'un doit confesser son péché. Ce matin, quelqu'un doit dire comme le Fils prodigue. Quelqu'un doit rentrer en lui-même et dire, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Je lui dirai tout. Alléluia. 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 La Bible dit qu'il mettra point dehors ceux qui viennent à lui. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Ouvre ton cœur à ce Dieu. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à te pardonner. Il est disposé ce matin à te faire grâce. Oh Seigneur, merci. Merci ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Ce matin, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, notre état de péché. Ce matin, Seigneur, nous réalisons que nous sommes allés loin de toi. Ce matin, Seigneur, nous réalisons que nous avons mal géré la liberté. Nous avons voulu nous éloigner de toi, nous éloigner de ta maison, nous éloigner de ta sécurité. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons revenir à toi. Ce matin, Seigneur, entends le cri de ce frère, de cette sœur, Père, qui s'est éloigné de toi, qui s'est éloigné de la vie chrétienne, qui a rétrogradé dans sa foi, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, accueille-le dans ta maison, Père. Accueille-le dans ta maison. Ce matin, quelqu'un qui a mal géré sa liberté, qui a mal géré la liberté, qui a sombré dans l'esclavage, reviens à toi, Seigneur. Reviens à toi. À toi qui peux lui donner la force de vaincre le péché, la force d'être à nouveau libre en toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce matin. Oh Seigneur, merci pour ce matin. Tu ne mets point dehors mon frère, tu ne mets point dehors ma sœur. Tu nous accueilles, Seigneur. Tu pardonnes encore ce matin, Seigneur. Oh éternel Dieu, reçois la gloire. Reçois l'honneur, Père. Alléluia. Merci pour cette vie qui est changée. Merci pour une vie que tu changes ce matin. Merci pour une vie que tu changes ce matin. Merci pour une décision qui est prise ce matin. Une décision d'abandonner le péché. Merci pour la force, Seigneur. La force de triompher devant le péché. La force de triompher, Seigneur, devant toute tentation de l'ennemi, Seigneur. Merci, Père, de nous l'accorder. Merci, Seigneur, de le faire. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ce serviteur qui s'était éloigné de toi, qui était allé en récréation. Mais, Seigneur, ce matin, il revient à toi. Merci de l'utiliser à nouveau. Merci de se servir de lui à nouveau, éternel Dieu. Ce matin, nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce message, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Et merci de nous avoir changé. Merci pour cette semaine qui s'ouvre à nous. Une semaine bénie. Une semaine glorieuse. Une semaine de victoire. Une semaine où nous rentrons en intimité, en accord avec toi, Seigneur. Une semaine où nous allons encore marcher dans ta crainte et dans l'obéissance à ta parole, Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous voulons dire ensemble, merci Seigneur Jésus.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.